Parfait. Bon, alors pourquoi ce sujet d'abord? Eh bien, c'est parce que vous possédez à Martène une magnifique collection de pots de pharmacie qui proviennent probablement soit de l'ancien hospice qui a été fondé vers 1740, l'ancien hospice qui se trouve au-delà de la porte Pinche, du côté de Bérac, sur la route de Bérac, ou alors des pots qui sont plus anciens et qui appartenaient à des apothicaires de Martel, qui, vous allez le voir, sont nombreux et ont eu une existence assez intéressante et assez considérable. Autrement dit, c'est un petit peu pour ça que j'ai choisi ce sujet, parce qu'il m'a semblé que Martel avait un de ses thèmes, si vous voulez, qui était précisément l'hospitalité et la médecine. Alors pourquoi? Eh bien parce que Martel est, comme vous le savez, une ville relativement neuve, fondée seulement vers l'an 1000 par l'abbaye de Souillac, laquelle était la fille de l'abbaye d'Aurillac. Donc une ville relativement récente, marché du sel, puisqu'elle était à la fois sur la route venant de Souillac, où ce sel était débarqué, et puis ensuite sur la route menant vers l'Auvergne, vers Brive et aussi vers Gramat, c'est-à-dire un carrefour qui permettait de dispatcher ce sel soit vers le Limousin, soit vers le Guercy, bien sûr, et vers Cahors, soit encore vers l'Auvergne, qui se servait énormément de sel à cause de ses troupeaux et aussi à cause de ses fromages. Donc, Martel, ville du sel, a été aussi, à partir du Moyen-Âge, une route de pèlerinage vers le Camargue. Et là encore, ça suppose que dans ce carrefour, cette ville carrefour, se rencontrent des gens qui sont des étrangers et qui peuvent être malades. Il y a donc à Martel, plus que dans les autres villes de la région, en particulier Bérac ou Souillac, plus de médecins, si on peut dire, d'apothicaires et aussi de ce qu'on appelait les chirurgiens, qui étaient en réalité des sortes d'infirmiers, depuis le Moyen-Âge. Alors je vais faire cette étude en trois parties. Je vais vous parler d'abord de la médecine et de la chirurgie au Moyen-Âge, et disons jusqu'à la guerre de Cent Ans, à peu près. Ensuite, dans une seconde partie, nous verrons que la Renaissance a été une période de changement, pas toujours en bien d'ailleurs dans la médecine, mais tout de même de changement. Et puis enfin, je vous parlerai de ce qu'on peut appeler la médecine au temps de Molière, puisque Molière s'en est beaucoup moqué, des médecins, et c'est donc la médecine du XVIIe et XVIIIe siècle. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle n'a pratiquement pas évolué, cette médecine, depuis Hippocrate, qui en a fondé, si vous voulez, les principes, et ça se passe trois siècles avant Jésus-Christ, Galien, qui est un médecin qui a vécu au temps de Néron, après Jésus-Christ, et qui est, lui, une espèce de spécialiste des maladies, en les classant les maladies. Bref, la médecine n'a pratiquement pas évolué depuis cette époque. Les médecins du XVIIIe siècle, ou en tout cas du début du XVIIIe siècle, se fondent encore sur Hippocrate et sur Galien. Et sur les principes qui sont très simples, à savoir que dans le corps humain, il y a ce qu'on appelle des humeurs. Alors ces humeurs sont diverses, mais elles sont très mauvaises en général, et il importe de s'en débarrasser. Si bien que la médecine va être essentiellement une médecine de purge, de vomitif, de saignée, et puis de lavement. Bref, il faut évacuer le plus possible ces humeurs qui sont mauvaises et qui causent les maladies. Et il faudra donc attendre la Renaissance pour avoir quelques changements, mais ça va être plutôt des changements chirurgicaux, grâce à Ambroise Paré, qui va commencer à essayer de soigner les blessés de guerre et qui va essayer surtout de les guérir. Et il s'est aperçu que tout ce qu'on faisait jusqu'alors pour guérir ces blessures avait plutôt tendance à les aggraver. On cautérisait les blessures. voyez, avec des objets brûlants, parce qu'on imaginait que ça allait cicatriser. D'autre part, on versait sur les blessures des produits variés. Lorsqu'il s'agissait de plantes, c'était encore pas trop dangereux. Mais quand on commençait à y mettre de la crotte de chèvre, ou bien de la peau de cerf, ou bien des têtes de vipère, ou bien des queues de lézard, ça compliquait pas mal les choses. Donc, c'est une époque, la Renaissance, où on tente quand même de réfléchir un peu sur les conséquences de ce qu'on fait. Voici donc pour ces trois parties, et je vais commencer donc par le Moyen-Âge. Alors, Martel est probablement une ville qui, dès le Moyen-Âge, atteint 2500 habitants. Ensuite, elle évoluera jusqu'à 3000 habitants au moment de la Révolution. Ça ne bouge pratiquement pas. Vous voyez, c'est une population stable. Alors, cette population stable, donc, sur le plan médical, elle va être, bien entendu, dès le départ, confiée à l'abbaye de Souillac. En effet, ce sont des moines qui, au Moyen-Âge, sont des spécialistes de la médecine. Ce sont donc eux qui soignent, et ce sont eux aussi qui forment des laïcs, mais des laïcs qui n'ont pas le droit de se marier. Ces laïcs, ce sont donc ceux qu'on appellera des médecins, médicus, ou alors en occitan, des mèges. Et on va donc s'apercevoir qu'à Martel, de même qu'il y avait des familles qui s'appelaient par exemple la famille Sacriste, c'est un office de l'abbaye de Souillac, et ça veut dire que c'est un bourgeois de Martel qui a été formé par le sacriste. De même que vous avez des gens de Martel qui s'appellent les loubreries, ça veut dire l'ouvrier, et là encore c'est un des offices Monaco de Souillac. De même, vous avez une grande famille de Martel qui s'appelle les Médicis. Médicis ou Mège, on les appelle Mège de temps en temps, ou encore Médicus. Autrement dit, c'est des gens, alors bien entendu ce ne sont pas des gens qui sont mariés, dans la famille ça doit être un personnage de la famille qui a reçu ce nom, ce titre, et qui est donc un médecin. Et on peut l'imaginer dès les années 1100, puisque c'est vers 1100 que ce nom apparaît à Martel. Voilà les premiers médecins. Il y a ensuite ceux qu'on appelle les chirurgiens, et qui sont, eux, des laïcs aussi, mais des laïcs qui ont le droit de se marier. D'autre part, ils ne savent pas le latin, et ça fait la grosse différence avec les médecins qui, eux, parlent en latin, se promènent avec des robes longues, et sont donc des clercs, c'est-à-dire ils ne sont pas mariés. Les chirurgiens, eux, on les assigne souvent aux barbiers, et ils ont à peu près la même fonction. Comme l'Église ne veut pas verser le sang, elle interdit donc aux médecins de toucher les malades, oui, et c'est le chirurgien qui en est chargé. C'est donc le chirurgien qui va, sur l'ordre du médecin, se livrer à un certain nombre d'opérations qui sont précisément ce que Molière décrit, c'est-à-dire purger, saigner, et on saignait beaucoup, naturellement aussi panser les plaies, et puis donner des larmes et faire vomir les gens. Autrement dit, c'est lui qui fait, si on peut dire, le gros boulot. Et c'est surtout lui qui connaît les malades. Parce que les médecins, eux, ne sont pas censés s'en approcher. Ils dissertent sur la maladie, ils dissertent sur l'origine de cette maladie, le tempérament du malade, et ainsi de suite. Mais il n'est pas censé le toucher, vous voyez. C'est le rôle du chirurgien. Et pour finir, les moines sont aussi des apothicaires, c'est-à-dire qu'ils ont la connaissance de ce qu'on appelait alors les simples, c'est-à-dire toutes les herbes et toutes les plantes qui peuvent soigner, et ils ont donc des sortes de laboratoires dans lesquels eh bien, ils se livrent à des opérations diverses sur ces plantes et aussi sur des animaux, et également sur des métaux, des minerais, pour les broyer, les mélanger, voir ce qu'ils pourraient faire comme drogue à partir de ces produits. Bien entendu aussi, ils découvrent des poisons, parce que les plantes, beaucoup d'entre elles sont des poisons, de même pour certains animaux, pour certains venins, et donc il se livre aussi à des opérations qui ne sont pas très catholiques et qui pourraient les mener d'ailleurs au bûcher ou à le fait d'être accusé d'être des sorciers. Donc ils sont très discrets, ils ne parlent pas beaucoup de ce qu'ils fabriquent dans leur laboratoire, et il est probable qu'ils découvrent des choses assez étranges et des produits qui ne sont pas tous des médicaments. Mais voilà comment font donc ces moines. Ils vont donc donner les drogues qu'ils fabriquent à des gens qu'on appelle les apothicaires et qui sont au Moyen-Âge de simples marchands, c'est-à-dire des gens qui distribuent sur l'ordre des médecins les drogues que les moines leur ont confiées. C'est donc un métier de marchand. Et en particulier, ils vendent ces produits aussi, lorsque ce n'est pas sur ordonnance, ils les vendent aux foires et au marché. Et bien entendu, parmi ces produits, il y a des drogues miraculeuses qui peuvent guérir de tout, mais dont ils gardent et conservent bien sûr la formule tout à fait à part. Alors en cherchant dans les archives de Martel, on trouve que cette famille Médicis est donc représentée vers 1100. Ensuite, on trouve vers 1250 l'existence d'un médecin que les consuls de Martel ont fait venir de Cahors et qui s'appelle Bernard Mallet. C'est bien sûr un clerc, c'est-à-dire un personnage non marié, mais pas un prêtre, vous voyez. Et il lui confie l'hôpital des consuls, qui s'appelle l'hôpital majeur. Alors là, je passe donc à cette catégorie d'installations qui existaient au Moyen-Âge. Il se trouve que Martel avait 3 hôpitaux, ce qui est énorme pour une ville de seulement 2000 à 3000 habitants, et qui prouve que l'existence des pèlerins, le passage des pèlerins vers Okamadour, était quand même important et nécessitait l'existence de ces hôpitaux. Mais il n'y avait pas seulement les pèlerins. En principe, dans ces 3 hôpitaux, on soignait aussi les malades de la ville, à condition qu'ils soient pauvres, et puis on recueillait les enfants trouvés. Autrement dit, c'était un type d'hôpital qui était multifonction, si on peut dire. Et ces 3 hôpitaux sont les suivants. Il y avait donc l'hôpital majeur, qui était tenu par les consuls, qui était, si vous voulez, subventionné par les consuls, par la municipalité, et qui était dirigé par ce qu'on appelait un commandeur. Alors ce commandeur était un docteur. Ensuite, il a été tenu par des religieuses, et vers le milieu du Moyen-Âge, il y a 16 religieuses à cet hôpital majeur. Ça veut dire que c'est tout de même un très grand hôpital. En comparaison, dans la région, il n'y a que l'hôpital de Rocamadour, les hôpitaux de Rocamadour, qui sont aussi importants, vous voyez. Ensuite, il y a un second hôpital, qui n'apparaît qu'après les croisades, c'est-à-dire vers 1250 aussi, et qui est tenu par les religieuses de l'ordre de Malte, qu'on appelle aussi l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Et cet hôpital, c'est un hôpital qui se trouve dans le faubourg ou dans le barri de Creys, et qui s'appelle la Vraie Croix, la Vère Croix. Ça veut dire la Vraie Croix. Il est sur le chemin qui mène donc de Martel à Creys et ensuite à Rocamadour. Alors là, on a peu de renseignements sur cet hôpital, sinon qu'il était tenu par ses sœurs de l'ordre de Malte ou de Jérusalem, qui étaient des demoiselles nobles et qui s'occupaient donc des malades en général. Et puis, il y a un troisième hôpital, qui est l'hôpital Saint-Marc. Et cet hôpital Saint-Marc est tenu par l'ordre masculin de Malte, c'est-à-dire les hommes. Ensuite, au moment de la guerre de Cent Ans, ils fusionneront tous les deux, l'hôpital Saint-Marc et la Vraie Croix, et ils se retrouveront donc ensemble. 3 hôpitaux, c'est donc énorme. L'un se trouve du côté de la route venant de Paris et de Brive, c'est-à-dire dans le barri de Brive, ou un peu au-delà du barri de Brive. La Vraie Croix se trouve donc dans le quartier de Creys, et enfin l'hôpital majeur est dans la ville, dans le centre-ville, et il se trouve dans une très grosse maison qui est sur la rue droite et qui est tout près de l'église. Alors, je ne sais pas comment il s'appellerait maintenant. Il avait eu, à un moment donné, une imprimerie.
Ah, oui.
C'est une... Je ne sais pas comment vous l'appelez maintenant, cette maison. Et c'est une très, très grosse maison qui va à la fois depuis la rue du Four jusqu'à la rue Morte. Elle est énorme. Hein. C'est une maison vraiment énorme. Et c'était donc l'hôpital majeur. Alors, à part cette famille Médicis, on a aussi l'existence, toujours vers 1300, d'un nommé Élie Astrug. Alors, il habite juste en face de l'église Saint-Maur, et il est dit Médicus, Mège. C'est-à-dire, c'est un vrai médecin. Ça, c'est aussi très rare, parce que la plupart des petites villes de l'époque n'ont que des chirurgiens, et il n'y a pas véritablement de médecin. Alors, qui soignait-on? Qui étaient les gens qui étaient soignés par ces médecins? Alors, probablement, évidemment, la bourgeoisie, les familles riches et notables. Et puis, les pauvres étaient soignés plutôt par les religieuses et dans les hôpitaux. D'autre part, il y avait aussi, bien entendu, une médecine familiale ou une médecine paysanne importante et qui était basée essentiellement sur les plantes, évidemment. Voilà pour le Moyen-Âge. Alors évidemment aussi, on comptait beaucoup sur Dieu. Et lorsqu'il y avait par exemple une épidémie de peste, eh bien on allait porter un cierge à Notre-Dame de Rocamadour en faisant un pèlerinage. D'autre part, on priait certains saints qui avaient des spécialités et qui permettaient de soigner certaines maladies. Du moins, espérait-on que ces saints allaient pouvoir soigner certaines maladies. Et ça, c'est une chose bien connue. Alors, bien sûr, il y avait les grands saints qui sont les meilleurs guérisseurs. Et pour commencer, Saint Luc, qui était le patron des médecins. Saint Côme et Saint Damien, qui sont, comme vous le savez, certainement deux frères martyrs, qui étaient l'un médecin et l'autre chirurgien. Donc, c'était très commode, ça permettait de mettre les deux confréries ensemble. Donc, après Saint-Côme et Saint-Damien, et puis il y a eu, à partir du moment où la peste s'est beaucoup répandue, c'est-à-dire dans le XVe siècle, Saint-Roch, qui était, lui, spécialiste des pestes. Et puis, il y avait la lèpre, et la lèpre est arrivée pratiquement après les croisades. On a l'impression que c'est surtout les croisés, au retour des croisades, qui ont ramené cette lèpre. Alors, c'est pas extrêmement contagieux, mais les gens en avaient tout de même très peur. Et la plupart des bourgs, et même les villages, ont très souvent eu ce qu'on appelle des maladies, ou des maladreries. Et la maladie de Martel, elle est à la limite de la paroisse de Murel, c'est-à-dire pas très loin de la Croix-Mathieu, sur une route qui venait à l'époque du Périgord, en passant par Cressinsac, vous voyez, en arrivant à Martel. C'était pas la route de Paris-Toulouse, parce que la route de Paris-Toulouse passait par l'hôpital Saint-Jean, par Nazareth, enfin, Brive, Nazareth, l'hôpital Saint-Jean, mais c'était la route venant du Périgord, et qui passait par Cressinsac, et qui arrivait donc à la Croix-Mathieu, qui rencontrait à la Croix-Mathieu la route de Paris-Toulouse, et la maladrerie se trouvait juste à côté. Alors, comme toutes les maladreries, elle était censée être en plein vent. Parce que, je ne sais pas, on devait penser que les lépreux se soignaient mieux lorsqu'ils étaient dans le vent du Nord. Et du coup, effectivement, c'est un endroit qui existe encore. Alors, bien sûr, la maladrerie a disparu depuis longtemps. Mais c'est un endroit qui s'appelle encore la maladie. Il y avait beaucoup de maladies dans la région. Vous en avez aussi une à Casillac, une à Sarrazac, tout le long de cette route, hein, tout le long de la route Paris-Toulouse. C'est donc pas très étonnant, vous voyez, qu'on trouve toutes ces maladreries. Et puis il y a un personnage aussi qui se mêle de médecine, si on peut dire, et qui va être assez efficace, si on peut dire, c'est Philippe le Bel. Alors Philippe le Bel, pour commencer, vers 1295, a demandé spécialement au consul de Martel de chasser les juifs qui avaient été introduits dans la ville quelques années auparavant et que Philippe le Bel ne voulait pas voir. Vous savez que Philippe le Bel a persécuté les juifs parce que c'était des gens qui lui avaient prêté de l'argent, qui étaient des banquiers, Et comme il n'avait pas l'intention de les rembourser, le mieux était effectivement de se débarrasser de l'un. Et il est probable que parmi ces juifs qui quittent Martel, il y a des médecins juifs, car au Moyen-Âge, les médecins juifs étaient particulièrement renommés. La plupart des familles princières avaient un médecin juif, et ces médecins juifs avaient été formés par les Arabes en Andalousie, où il y avait une école de médecine et surtout une école de pharmacie extraordinaire, et où les Arabes, ayant récupéré les textes grecs et ayant récupéré aussi des textes encore plus anciens orientaux, avaient mis au point toute une école de médecine et de pharmacie. Et ces médecins arabes avaient naturellement des disciples juifs aussi, parce qu'en Espagne il y avait un mélange de juifs et d'arabes. Et ensuite, ces médecins juifs sont venus à Montpellier, où ils ont fondé une grande faculté de médecine aussi, au Moyen-Âge, et se sont répandus un petit peu partout. La plupart des rois, je vous dis, avaient, ou des princes, avaient des médecins juifs. Alors, à Martel, évidemment, si Philippe le Bel les a obligés à partir, ils n'ont certainement, ils se sont certainement pas restés, mais peut-être ont-ils eu des disciples, peut-être y a-t-il eu des médecins locaux qui étaient formés par eux, tout simplement. Et puis, il a aussi traité les lépreux d'une façon très efficace, si on peut dire, entre guillemets, puisqu'il m'a ordonné de les brûler, eux et leur léproserie. Et effectivement, après 1350, disons, non, 1320, la lèpre décroît sensiblement. Mais enfin, c'est tout à fait logique quand on emploie comme méthode le massacre systématique de tous les juifs, de tous les lépreux qui se trouvent en pointe. Donc, voilà, Philippe le Bel est ce qu'on peut appeler un médecin efficace, mais enfin, un médecin vraiment un peu pénible pour l'ensemble des gens. Alors, voilà pour le Moyen-Âge. On peut estimer que Martel est très bien soigné, qu'il y a dans cette ville à la fois des hôpitaux, des médecins, des chirurgiens et des apothicaires. Tous ces gens-là sont formés ou ont été formés au premier temps par l'abbaye de Souillac, c'est-à-dire par les moines de Souillac. Ensuite, il est probable qu'ils se sont fait aider par les cordeliers, qui sont arrivés à Martel vers 1230 et qui se sont installés très confortablement près du marché du sel, et qui eux aussi sont des apothicaires et des médecins, enfin des gens qui s'intéressent à la médecine et à la pharmacie. Et puis, il y a toutes ces religieuses, de Maltese, d'une part, et puis celles qui sont employées par l'hôpital majeur, dont on ne connaît pas l'ordre, on ne sait pas quel ordre religieux c'est, mais ce sont peut-être simplement des femmes dévotes qui se sont consacrées aux malades, mais qui ne sont pas d'un ordre religieux particulier. Il est possible que ce soit simplement donc des femmes qui se spécialisent dans la médecine. Et pour parler des femmes, beaucoup d'entre elles exercent la médecine, c'est-à-dire une médecine, disons, familiale ou paysanne. Ce sont elles qui s'y connaissent en plantes, ce sont très souvent elles qui font ce qu'on appelle les tisanes. À l'époque, on disait des ptisanes, avec un P devant, qui fabriquent aussi des sirops, et qui sont, si vous voulez, des adeptes de la médecine douce. Alors que, évidemment, les chirurgiens, hommes, sont plutôt adeptes d'une médecine un petit peu plus violente, un peu plus forte. Et nous passons à l'époque de la Renaissance. Alors, qu'a apporté la Renaissance à une ville comme Martel? Alors, elle a apporté, bien sûr, comme dans toute la France, des produits nouveaux, c'est-à-dire des produits qui venaient du Nouveau Monde, qui venaient d'Amérique ou qui venaient d'Asie et qui n'étaient pas jusque-là connus. Alors, c'est par exemple le cas du pavot. Le pavot était, ça donne, comme vous le savez, l'opium, qui donne toutes sortes de produits qui deviennent des drogues actuellement, et qui à l'époque, grâce à un nommé Paracelse, qui était donc un médecin, a été généralisé sous le nom de l'odanum. Alors, Paracels avait inventé donc ce produit à partir d'opium, avec pas mal d'opium, et puis il ajoutait du miel, de l'alcool, enfin du vin, etc. Il mettait des plantes aussi pour parfumer. Bref, il faisait un ensemble qui était assez sympathique et qu'il appelait une médecine anodine. Alors, je ne sais pas si anodine veut dire comme maintenant, complètement pas grand-chose, mais en fait, l'odanum était assez dangereux. Alors, c'était une médecine qui était employée pour toutes les douleurs, aussi bien les douleurs d'intestin, d'estomac, de mal de tête, etc. Mais évidemment, on finissait par devenir accro. Parce que, bah oui, l'odanum, c'est une drogue. Et l'opium, c'est une drogue assez dangereuse. Donc Paracels, qui avait eu pas mal de succès, était donc partisan de l'odanum. Et puis Paracels avait d'autres idées. Alors, contrairement à Hippocrate et à Galien, qui étaient les deux sommités médicales, auxquels on faisait toujours allusion, Paracels, lui, il est convaincu qu'il faut seulement soigner la maladie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'occuper de savoir si c'est les humeurs qui sont dans le corps qu'il faut purger, mais qu'il faut réfléchir à la maladie et essayer de trouver pourquoi cette maladie. En particulier, il va être ce qu'on peut appeler le spécialiste ou l'inventeur de l'homéopathie. Parce qu'il déclare qu'il faut des toutes petites quantités pour soigner les gens, et non pas les doses qu'on donnait à l'époque, qui étaient des doses très importantes. Alors bien sûr, il a eu contre lui tous les autres médecins, parce que la confrérie, ce n'était pas une confrérie qui acceptait facilement les changements. Il y avait déjà des énormes disputes, à cette époque-là, sous la Renaissance, entre les chirurgiens, et puis les médecins. Les médecins considéraient que les chirurgiens, c'était des âmes battées, puisqu'ils ne savaient pas le latin, et c'était des véritables bouchers et charcutiers, puisqu'ils passaient leur temps à saigner les gens ou à s'occuper de leur corps. Il y avait donc une espèce de haine entre les deux confréries. Alors ça, c'est évidemment vrai pour Montpellier ou pour Paris. Pour Martel, ça va être difficile à prouver. Parce que lorsqu'on étudie les familles de la Renaissance où on trouve des médecins et des chirurgiens, la plupart du temps c'est la même famille. Autrement dit, ils n'ont pas dû se disputer énormément lorsque l'un était le cousin de l'autre. Voyez. Alors parmi ces médecins et ces chirurgiens de l'époque de la Renaissance, il faut citer en particulier la famille Archambal, qui est une très grosse famille de Martel. Ensuite, ces Archambal viendront plutôt des officiers de justice, plutôt que des médecins et des chirurgiens. Mais au départ, à la Renaissance, c'est cette famille Archambal que l'on retrouve tout particulièrement donc comme médecin. Également, une famille Morlaix. Ces Morlaix semblent avoir été des médecins formés à Montpellier, et on les trouve à la fin du XVIe siècle, vous voyez, donc à la fin de la Renaissance. Voilà pour cette période de la Renaissance. Il faut ajouter que les trois hôpitaux vont fusionner, c'est-à-dire que ce sont les sœurs maltaises qui vont s'occuper des trois hôpitaux qui ont donc fusionné. Elles s'installent dans leur hôpital qui est sur la route de Brive. Elles vont essayer d'agrandir un peu les bâtiments. Mais en réalité, ça se passe assez mal. On a l'impression que pour le XVIe siècle, c'est-à-dire l'époque des guerres de religion, et puis ensuite pour le XVIIe siècle, cet hôpital marchera plus ou moins bien. On a l'impression, lorsqu'on regarde en particulier les registres de naissance, mariage et sépulture, que dans beaucoup de cas, on signale, un pauvre qui est mort dans la grange de M. Delon, par exemple, faute d'hôpital à Martel. Autrement dit, il est allé mourir dans une grange à l'extérieur de la ville. Au moment des pestes, il y a des pestes très importantes au XVIe siècle, les gens, au lieu d'aller dans les hôpitaux, se réfugient dans ce qu'on appelle des cabanes, c'est-à-dire des cabanes, c'est des huttes de branchage qui sont installées dans les champs, souvent à proximité de leur domaine. Et puis, depuis ces cabanes, ils dictent leur testament à des notaires qui viennent mais qui n'osent pas s'approcher trop près. Quant aux chirurgiens, ils sont obligés, eux, au moment de ces pestes, d'aller voir ces malades. Alors certains n'avaient probablement pas la peste, parce que ce que les gens ont appelé la peste à l'époque de la Renaissance, en réalité, c'est toutes les maladies contagieuses importantes. Quoi. Mais ça pouvait être probablement des grippes ou des choses comme ça. Ils sont néanmoins obligés d'aller les voir, et même de les autopsier, alors qu'en réalité, cette pratique était interdite par l'Église, mais elle était faite par ces chirurgiens. Alors pour voir, pas trop ce qu'ils pouvaient voir à l'intérieur des corps de pestiférés, mais enfin, disons, pour prévenir les consuls et leur dire si oui ou non il s'agissait de véritables pestiférés. Ces pestes ont été assez fréquentes. C'est assez logique aussi parce que vous êtes sur la route Paris-Toulouse, vous êtes sur la route à l'époque Souillac, c'est-à-dire Bordeaux, Clermont-Ferrand, si on peut dire, et donc il y a beaucoup de passages de soldats. Et ce sont les soldats qui traînent balle, qui transmettent la plupart des épidémies, qu'il s'agisse de peste ou autre chose. Très souvent, derrière eux, c'est d'une part la famine, parce qu'ils ont réussi à se nourrir sur les habitants et à détruire quelquefois les récoltes, et puis c'est la peste ou c'est les maladies contagieuses qui transmettent aussi le long de leur parcours. Il est évident qu'un endroit beaucoup plus isolé, dans des collines ou, vous voyez, tout à fait dans des coins sans route, était beaucoup plus préservé. Quant aux bourgeois de Martel, eh bien, dès qu'il y avait une suspicion de peste, dès qu'on disait que la peste était par exemple à Casillac ou à Souillac, eh bien, ils se précipitaient dans leur maison de campagne, et ça explique le grand nombre de maisons de campagne qui ont été construites à l'époque de la Renaissance, non pas par des nobles, il ne s'agit pas de châteaux, mais il s'agit de ce qu'on appelait des boris, c'est-à-dire des belles petites maisons de campagne, où ces bourgeois de Martel se réfugiaient pour échapper à la contagion, tout simplement. Parce que la contagion était en ville, et ben voilà, la campagne c'était moins dangereux. Bien entendu aussi, on essayait tout de même de se préserver de la peste. Alors on brûlait du feu au carrefour des routes, on fermait la ville et on interdisait les foires et les marchés, on mettait des guetteurs au camp de la pie, qui veut dire le camp où on épie les gens qui se trouvent autour, et donc de là on essayait de voir s'il y avait des gens qui arrivaient d'une ville infectée, naturellement on ne laissait pas rentrer, et puis lorsqu'il y avait eu la peste dans la ville, eh bien on parfumait les maisons. C'est-à-dire qu'on y brûlait du thym, du laurier, de la sauge, des plantes odoriférantes. Enfin, ça ne pouvait pas, évidemment, avoir de résultats extraordinaires. Le résultat, c'est que en 1631, alors j'avance un peu sur le XVIIe siècle, l'un des apothicaires meurt de la peste, et non seulement lui, mais ses deux enfants et sa femme, c'est-à-dire qu'il m'a ramené, évidemment, à la maison. Après être allé voir un pestiféré, il a ramené la contagion. Voilà pour la Renaissance. Et j'en arrive alors à la période que nous connaissons mieux, pour laquelle alors on connaît pratiquement tous les apothicaires, tous les médecins et tous les chirurgiens de Martel, et où on se rend compte qu'ils sont vraiment très nombreux. Pour une ville de 2500 à 3000 habitants, vous avez tout de même une quantité impressionnante de médecins, de chirurgien donc, et d'apothicaire. Alors, je vais un petit peu commencer par les médecins. Ces médecins, donc, ont reçu l'autorisation de se marier en 1452. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le cardinal d'Estouteville, qui était chargé par l'Église des médecins, a décrété que ce n'était pas normal d'empêcher les médecins de se marier, et donc il a le droit de donner cette autorisation. Mais ce sont toujours des gens qui parlent latin et qui doivent le savoir parfaitement. Voilà donc pour ces médecins. Alors, je vais vous donner, dans un livre qui date de 1610, les conseils qu'on donne à un jeune médecin pour s'occuper des malades. Alors, un médecin doit avoir la confiance des patients. C'est la première chose très importante. Mais il doit céder des esprits, c'est-à-dire de Dieu, des saints, et aussi de tous les esprits un peu bizarres qui rôdent dans les alentours, des cieux, c'est-à-dire qu'il doit être capable de connaître l'astrologie, parce que ça joue un rôle très important dans la médecine, suivant les astres, suivant le mois de l'année, suivant le jour et puis la conjonction des astres, vous pouvez avoir telle ou telle maladie. Donc il faut qu'ils connaissent très bien tout ça. Des éléments. Alors les éléments, c'est ce que nous avons vu avec les humeurs, c'est-à-dire le chaud, le froid, le sec, l'humide, et ainsi de suite. Tout ce qu'on peut appeler des éléments. Et enfin, en dernier, les hommes. C'est-à-dire il faut quand même qu'il ait une vague connaissance du corps humain et de la nature humaine. Mais enfin, il n'est pas obligé du tout d'avoir fait des autopsies, d'ailleurs c'était interdit, et c'est les chirurgiens qui sont chargés, comme je vous l'ai dit, et il n'est pas obligé du tout de s'approcher beaucoup du malade. Voilà ce qu'on lui recommande de faire. Alors, il faut être propre, agréable et bien habillé. Il faut être diligent. Devenir ami particulier du malade et bien connaître son tempérament. Bon, on va lui demander comment faire pour ça. Il faut bien connaître les astres et avoir un horoscope qui ne soit pas opposé à celui du malade. Parce que si l'horoscope qu'on a soit n'est pas bien avec le malade, ça risque de mal tourner. Ne jamais entrer chez lui à l'heure de Mars ou à l'heure de Saturne. Mars et Saturne sont considérés par les médecins comme très dangereux. Alors Saturne, parce qu'il représente l'humeur mélancolique. Et l'humeur mélancolique, ça donne toutes les maladies mentales, et ça peut être très dangereux. Naturellement, c'est la faute à Saturne. Quant à Mars, il est très belliqueux, il est très violent, et comme disait d'ailleurs ce médecin, il peut mener à faire des charcuteries. Alors la charcuterie, c'est précisément ce que font les chirurgiens. On a fait ça, la charcuterie. Ça consistait donc à saigner à différents endroits, à faire des cautères. Et voilà, pour les astres. Alors maintenant, une fois qu'on est arrivé chez le malade, un médecin sous l'influence de Mars est violent et brouillon, et il expose le malade à des charcuteries douloureuses. Ça, c'est pour celui qui est sous l'influence de Mars. Le médecin qui est sous l'influence de Saturne est mélancolique et désagréable, et il ne sait pas parler. Ça, c'est pas bien du tout, parce qu'il va falloir parler latin, et bien parler latin. Alors, il faut être circonspect, et ne pas commencer avec les maladies les plus graves. Si vous êtes un jeune médecin, ne vous attaquez pas à quelqu'un qui a l'air d'être vraiment très malade. Parce qu'il y a des chances pour qu'il vous cale entre les mains, et ça va vous faire une très mauvaise réputation. Donc vous commencez par des malades. Commencez doucement. Vous commencez très doucement. Alors ensuite, vous arrivez auprès de lui. Alors, vous lui donnez le bonjour avec un visage gai, et vous lui faites raconter ce qu'il fait. C'est-à-dire comment il dort, comment il mange, comment il boit, s'il a déjà eu ce mal, bon, vous le faites parler. Ensuite, le médecin jettera les yeux sur lui, toujours sans me toucher, à distance, et fera un catalogue de son tempérament. C'est-à-dire qu'il se dira, il est bien maigre, il n'a pas dû manger assez, au contraire, il a l'air bien jaune, il va avoir un peu une jaunisse, etc. Il est toujours assez. Ensuite seulement, il lui prend le pouls, avec un visage grave et les yeux à terre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder le malade. On lui prend son pouls et on voit, enfin on ne le regarde pas, et on prend un air très grave. Voilà pour le tout. Ensuite, on s'approche d'une fenêtre et on se fait apporter l'urine du malade dans un verre. Alors, il ne s'agit pas de boire, mais il s'agit de regarder à la lumière pour voir comment fonctionne cette urine. Voilà donc ce qu'on fait lorsqu'on est un médecin prudent et un jeune médecin. Ensuite, le malade retourne dans sa chaise, c'est-à-dire il va s'asseoir à l'endroit qu'on lui a fixé, et il fait un peu de méditation. Il ne faut pas qu'il ait l'air tout de suite, vous voyez, de dire « Waouh, vous avez ça, vous avez ci, non, il va méditer. Et après sa méditation, il va déclarer son sentiment. C'est-à-dire, il va dire « Je pense quand même que vous avez telle ou telle chose. » Enfin, il travaille à la cure, c'est-à-dire qu'il va faire une liste du régime que le malade doit suivre, et en particulier de tout ce que le chirurgien va être obligé de faire, et qu'il est obligé de faire d'ailleurs, à la suite du médecin, c'est-à-dire ce que Molière a décrit dans le malade imaginaire, saigner, purger et donner des clistères. Et les trois choses, donc, plus ou moins souvent. Il y a d'autres conseils qui sont aussi pas mal. Par exemple, il faut, à la troisième visite, le médecin est obligé de demander aux proches du malade si c'est confessé. Alors évidemment, il ne dit pas directement, parce que c'est quand même lui flanquer un peu de... un coup de mou, quoi. Mais on dit aux proches. Et ce médecin conseille aussi aux jeunes médecins de ne pas dire au malade ce qu'il a, lui dire que ça va, avoir un visage gai, enfin être agréable avec lui, mais surtout après, aux parents et aux proches, dire « Méfiez-vous, c'est très grave, la plupart du temps on ne réchappe pas, il faudrait peut-être qu'il fasse son testament, il faudrait qu'il mette en ordre ses affaires. » Comme ça, explique le médecin, vous vous mettez à couvert. Si guérit, ça prouve que vous êtes un très bon médecin. Et puis si guérit pas, ben, vous aurez prévenu. Hein. Vous aurez prévenu que c'était une maladie tellement grave que la foi, ben, on ne s'en sort pas. Ça, et alors, il y a le pire. Le pire, c'est quand il y a deux médecins. Parce que la famille a pu se méfier et faire venir deux médecins au lieu d'un. Alors attention, premier conseil, ne pas vous disputer devant les gens. Si vous n'êtes pas d'accord sur cette maladie, surtout ne le dites pas pour tout le monde. Demandez l'autorisation d'avoir une pièce à part, ou vous retirez dans cette pièce, et puis là, vous discutez. Hein. Et là, ça peut mal tourner, hein, dans l'endroit. Il ajoute, si votre compère ou si votre collègue est quelqu'un de doux et de gentil, vous allez le recommander au malade. Vous allez dire, oui, c'est un type très bien, je m'entends avec lui, on est tout à fait d'accord. S'il est de caractère désagréable, c'est-à-dire s'il est sous l'influence de Mars, il faut attendre quelques jours, voir s'il n'est pas venu chez le malade, aller voir le malade et lui dire, vous savez, ce type-là, il est très dangereux, il a fait mourir un tel et un tel, je ne le conseille pas. Et enfin, dernier conseil, si vous ne savez pas ce qu'il a, votre malade, eh bien, il faut attendre 3 jours pour venir le voir. Et puis, si au bout de 3 jours, vous n'avez toujours pas d'idée, vous revenez au bout de 7 jours. Alors là, vous êtes tranquille au bout de 7 jours, où il va mieux, où il est mort. Et donc, vous êtes tranquille. Vous voyez que tout ça était très inquiétant. Et on comprend que Molière, qui était malade, et qui est d'ailleurs mort au cours de la représentation du malade imaginaire, eh bien, on est voulu au médecin. Parce qu'effectivement, leur médecine était tout de même ancienne. Elle datait de l'Antiquité, et ils n'acceptaient pas les modifications et les changements. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça se passait comme ça, Martel ? Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que les médecins étaient moins savants que ceux de Paris ou de Montpellier, qu'ils avaient moins de termes latins en tête, et donc qu'ils devaient pratiquer une médecine peut-être un petit peu plus raisonnable. C'est-à-dire, effectivement, une médecine à base de plantes. Et là, vous pouvez mélanger de la menthe, de la sauge, etc., en faire de la poudre, ensuite mettre ça dans du vin. Bon, je ne pense pas que ça soit très dangereux. Je ne dis pas que ça va vous soigner, mais ça ne va peut-être pas détériorer votre santé. En revanche, plus vous allez vers Paris, plus vous allez vers les grandes villes, et plus vous tombez sur des médecins qui utilisent énormément de minéraux, parmi ces minéraux, l'antimoine. Alors, c'est très bien l'antimoine, mais en même temps, on a découvert depuis peu que l'antimoine, ça détruit les globules rouges. Alors, on ne savait pas, bien entendu, et on en fourrait un petit peu partout. C'est donc quelque chose de dangereux. D'autre part, on utilisait beaucoup l'or. On pensait que l'or était un médicament. En particulier, on faisait une dose infinitésimale d'or dans ce qu'on appelait l'or potable, c'est-à-dire de l'or en boisson, et tout ça était évidemment assez inutile. Alors, vous avez une petite liste des médecins et des chirurgiens de Martel. Ce que je constate, lorsque j'ai étudié les registres de mariage, c'est que d'abord, toutes ces familles se marient entre elles. C'est-à-dire que ça commence pour les chirurgiens, en général par un boucher. Le fils du boucher, il est chirurgien, ce qui peut se comprendre, parce qu'il a vu son père découper des trucs, il n'a pas eu peur du sang, et il n'a pu ensuite donc saigner ou même amputer une jambe. Donc on passe souvent depuis le chirurgien, depuis le boucher, vers le chirurgien, et puis on passe souvent de l'apothicaire au docteur. En revanche, c'est assez rare de trouver des mariages de chirurgiens et de médecins. Vous voyez, la chirurgie est vraiment à part. En fait, ce sont des infirmiers, ces chirurgiens. Mais ce sont des gens qui connaissent beaucoup mieux les malades que le médecin, parce qu'ils ont l'occasion de voir ses réactions, de le toucher, de le soigner, quoi, véritablement. Alors que le médecin, lui, le voit de très loin. Il le touche à peine. Donc, côté médecin, alors on s'aperçoit d'abord que ce sont la plupart du temps des gens qui se sont formés à Montpellier, à partir du XVIIe siècle, et qui sont médecins de père en fils. C'est-à-dire qu'il y a souvent trois générations de médecins successifs. Vous voyez. Naturellement aussi, ces médecins habitent dans le centre-ville, les apothicaires aussi, et les apothicaires ont des boutiques d'apothicaires, en particulier dans la rue droite. C'est le cas, par exemple, de la famille Vergne, qui a succédé à une famille Lescaut. Et puis, parmi ces médecins, il y en a vraiment qui sont des générations entières de médecins. Alors, Léon Morlaix, par exemple, né en 1606, avait déjà un ancêtre qui était médecin sous la Renaissance. Jacques Dupuis est fils et petit-fils d'apothicaire. Il vit vers 1650, vous voyez. Son frère Jacques, son fils Jacques, pardon, Jacques Dupuis, est prêtre et docteur en même temps, vers 1720. Vous avez François Garry, qui est fils et petit-fils d'apothicaire, et vous avez la famille Mémarie. Alors elle est vraiment dans le métier jusqu'au cou, puisqu'il y a une branche apothicaire, une branche médecin et une branche chirurgien. Et c'est des cousins. C'est des cousins, et tous sont d'ailleurs des petits-fils de sergents et d'huissiers, c'est-à-dire des gens qui avaient des métiers de justice. Ce qu'il faut dire aussi pour Martel, c'est que le XVIe et le XVIIe siècle sont l'époque où la ville a cessé d'être un marché du sel. Souillac a repris le monopole et s'est agrandi. D'autre part, la route de Paris à Toulouse a cessé aussi de passer par Martel, puisqu'Henri IV avait fait une route de poste par Cressinsac et Souillac, et donc les gens à partir de Brive, au lieu d'aller vers Nazareth et l'hôpital Saint-Jean, allaient vers Noailles et ensuite vers Cressinsac-Souillac, en somme prenaient la nationale, qui sera plus tard la nationale. Donc ça fait deux manques à gagner pour les gens de Martel. Ensuite, toujours au XVIIe siècle, les pèlerinages ont beaucoup décru. Et on ne peut pas dire que ça pouvait apporter à Martel beaucoup de pèlerins, vous voyez. Donc Amadour était vraiment en sommeil au XVIIe et XVIIIe siècle, si bien que la ville a accueilli avec joie la perspective d'avoir une sénéchaussée, c'est-à-dire un tribunal royal. Un tribunal royal qui avait un ressort qui allait jusqu'au nord, jusqu'au sud de la Dordogne, et qui allait jusqu'à Turenne, vous voyez, un très très grand ressort. Le résultat, c'est que tous ces fils d'apothicaires, de chirurgiens ou de docteurs du XVIe siècle sont devenus des hommes de justice, parce que c'était moins fatigant, parce que ça rapportait plus, et parce que c'était plus prestigieux. Parce que lorsqu'on était un officier de justice, c'est-à-dire un avocat du roi, un procureur du roi ou un personnage de ce genre, eh bien on pouvait espérer un jour être anobli si on avait plusieurs générations, vous voyez, de personnages de ce métier. Mais en même temps, ça a donné du travail à tous ces médecins et apothicaires, tout simplement parce que c'était des gens riches, tous ces officiers de justice, qui voulaient être bien soignés, et donc qu'ils avaient de nombreux docteurs à leur disposition. En revanche, pour les pauvres, c'est pas du tout bien. Tout le XVIIe siècle est un siècle où une quantité de pauvres incroyables sont morts sur les routes. Alors ils venaient souvent d'autres provinces. On voit qu'il y a à Martel, dans les actes de décès, beaucoup d'Auvergnats qui sont venus mendier ou qui sont venus pour travailler comme chaudronniers, mais qui sont morts sur place. On voit aussi beaucoup d'enfants qui ont l'air d'être seuls, parce que soit on les recueille, soit ils meurent, et on s'aperçoit qu'ils étaient tout seuls, venant en particulier du Périgord, et puis vous en avez aussi beaucoup qui viennent du Limousin. Vous savez que le Limousin était un pays considéré comme pauvre, parce qu'on n'y faisait guère que des châtaignes et du seigle, alors que le Quercy était considéré comme très riche, parce qu'on y avait du froment, on y faisait du vrai froment, on avait des troupeaux de moutons, donc on avait de la laine, et puis on avait aussi des troupeaux de bœufs et de vaches dans les plaines, et en particulier le long de la Dordogne, et puis aussi le long de la Tourmente, vous voyez, dans les plaines. Autrement dit, c'était une région considérée comme riche et où les pauvres venaient assez facilement mendier. On voit dans certains actes de décès une femme, par exemple, de 31 ans, qui a passé tout l'hiver à mendier à Martel et qui meurt au printemps dans une grange, là encore, puisqu'il n'y a pas d'hôpital. Alors une dame de la bonne bourgeoisie de Martel, qui s'appelle Madame de Longueville, décide de créer un hôpital qu'elle va doter donc, et fait son testament vers 1700. Seulement, sa famille a caché ce testament, parce qu'évidemment ça ne les arrangeait pas, la somme que cette dame voulait donner pour l'hôpital était vraiment énorme, et c'est seulement en 1739 que ce testament est dévoilé. Alors Martel va donc se construire un hospice, à l'époque on appelait ça un hospice, en dehors des murs, au-delà de la porte Pinche. Nous sommes seulement au XVIIIe siècle, et en même temps, elle va construire à côté un atelier pour les enfants trouvés, parce qu'on considérait qu'il fallait du travail, pour avoir le droit de manger, et donc c'est un atelier qui est pour les jeunes filles et puis les garçons, et qui va donc être un atelier textile. Pendant quelques années, donc, et jusqu'à la Révolution, cet hospice va fonctionner, et donc on peut considérer que la situation s'est améliorée vers le milieu donc, du XVIIIe siècle pour ces pauvres. Et puis je terminerai quand même avec quelques médecins célèbres de Martel. Alors il y a d'abord le fils, je vais dépasser un peu la Révolution, il y a d'abord le fils du pharmacien Vergne. Ce pharmacien Vergne, il habitait dans la rue droite, et il envoie son fils faire des études à Paris, où il devient médecin. Mathurin Vergne, donc, se retrouve à Martel vers 1840, comme médecin, mais il a un peu le goût des voyages. Alors on le voit partir d'abord vers l'Algérie, où il va devenir médecin, ensuite vers Cuba, où il devient également médecin, où il se marie et il a une fille, et puis enfin, probablement enrichi, il retourne à Martel et il s'achète à Saint-Denis-près-Martel le château qui se trouvait au-dessus de Saint-Martin-de-Farge. Et alors, comment il s'appelle ce château? C'est pas Maubuisson, parce que Maubuisson c'est à côté de Saint-Denis, mais c'est de l'autre côté de la commune, le Terme, le château de Terme. Donc Mathurin-Vergne, enrichi, s'achète le château de Terme et il va y vivre un certain nombre d'années. Autrement dit, vous avez là l'exemple d'un médecin formé à Saint-Louis, à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et qui a eu une carrière assez extraordinaire. Et puis il y en a un autre qui est quand même d'abord la Révolution, et qui est presque plus important, c'est le dénommé Jean-Baptiste Jaubertoux. Il était le fils d'un serrurier de Murel, et il habitait Martel, parce qu'il avait épousé une fille de Martel, enfin son père avait épousé une fille de Martel, et il va partir à Paris, devenir médecin de Louis XVI, il va vacciner ses enfants, c'était l'époque où on vaccinait de la variole, il va donc vacciner les enfants de Louis XVI, malheureusement les enfants de Louis XVI ont eu une destinée assez malheureuse, et il est fait chevalier de l'ordre de Saint-Michel, c'est-à-dire un ordre de noblesse. Son neveu, qui s'appelait aussi Jean-Baptiste, Jaubertoux, a voulu suivre les traces de son oncle. Il s'est embarqué sur l'Astrolabe, qui est un des navires de la Pérouse, comme apprenti chirurgien. Et comme tous les membres de l'expédition de la Pérouse, il est mort pendant la Révolution. On rappelle que Louis XVI, avant d'avoir été décapité, bien sûr, demandait tous les jours des nouvelles de l'expédition de la Pérouse. Il demandait où est la Pérouse. Récemment, on a fait des recherches et on a découvert qu'une partie de l'équipage avait été naufragée sur un îlot, qu'ils y étaient restés un certain temps, et on a même retrouvé un corps dans l'eau, enfin dans le bateau, quoi, qui était sous l'eau, et on a essayé d'en faire le portrait, vous savez, à partir des os, enfin du squelette. Et effectivement, il s'agissait d'un homme jeune, qui paraissait en bonne santé, qui paraissait assez cultivé, quoi, avoir l'air d'être un bourgeois. C'était, pourquoi pas, Jean-Baptiste Jaubertoux, qui avait donc quitté Martel un jour pour aller chercher fortune et devenir apprenti chirurgien, donc, sur l'Astrolabe. Voilà, je vous remercie. Des pots à pharmacie quand même. Ah, ils sont superbes. J'ai choisi ceux qui étaient les plus remarquables. Vous avez d'abord un pot, personne ne sait me dire ce que ça veut dire. C'est le Vic Kers. Parce que c'est Kers, ça veut dire le chêne. Mais Vic, j'en sais rien. Ensuite, vous avez un sel d'ammonium, de chlorure d'ammonium, qui est fondant, stimulant, diurétique, et qui est fait en potion, en tisane, et en vin. Il va servir pour faire des lotions, des gargaris et des collyres. Il y avait une recette de ce médecin dont je vous ai parlé, qui concernait les gens qui ronflent la nuit. Alors, voilà ce qu'il avait trouvé comme recette, se gargariser avec du vinaigre bouillant. Ensuite, vous avez du sulfure de potasse, sirop de soufre. Le sirop de soufre, c'est donc très altérable. Il faut le préparer tout de suite avant de s'en utiliser. Et ça sert pour la toux. C'est tout simplement un sirop pour la toux. La racine d'aulnay, Inula campana, mélangée avec du sucre, est un tonique, un excitant. Et il sert pour soigner le catarrhe chronique, c'est-à-dire les toux, la bronchite chronique. Quoi. Alors ensuite, vous avez la merveille qui est la thériaque. La thériaque contient jusqu'à 89 plantes. On peut y ajouter du vipère. On peut ajouter aussi voilà, de la corne de cerf, des choses de ce genre. Et ça donne quelque chose d'extraordinaire qui soigne tout, absolument tout, mais surtout les maux d'estomac. Ensuite, vous avez deux thériaques, vous voyez. Ça, c'était vraiment la médecine extraordinaire, le thériaque. Ensuite, vous avez le catholicon double, dans lequel vous mettez un certain nombre de plantes, vous voyez. Tamarin, casse. Le casse, c'est du sucre, tout simplement. De la rhubarbe, du séné, de la réglisse, de la violette, du fenouil et du potiron. Et ça sert en lavement. C'est-à-dire, vous en servez comme lavement. Mais ça s'appelle des électuaires. Et enfin, vous avez le diascorbium, qui est un opiacé, et dans lequel, donc, on met pas mal d'opium, et qui sert également pour faire des lavements. Je vous donne une dernière recette, quand même. Si vous êtes piqué par une vipère, alors, là aussi, c'est très sérieux. Prenez un coq. Vous lui mettez le croupion. Vous mettez le croupion sur la morsure. Vous lui fermez le bec. Et alors le venin passe dans le coq. Et au bout d'un certain temps, vous pouvez ouvrir le bec du coq et le venin va sortir.
Mais le coq devait être mort au passage. Bon, le coq. Voilà, ça inclut des questions. Bon, mais je vais passer la parole. Alors, si vous avez quand même des questions à poser à Marguerite Guény, c'est le moment. Ensuite, ben, on espère que vous partagerez le petit pot qu'on vous a préparé. Et voilà. Mais c'est toujours passionnant ce que vous dites.
Ce que je pense quand même, c'est qu'il fallait être costaud. Mais il y avait des gens qui étaient à 98 ans. Ah oui.
Oui. Voilà, moi, c'est pas une question. La commune de Martel honore toujours Jean-Baptiste Jobertot, qui a un petit square en face de la maison de retraite, la route qui va à Saint-Denis et la route qui va à Gramal.
Il habitait la maison de M. Imbert, c'est-à-dire la maison de la porte de la porte de Brive. Celle qui est à gauche de la porte de Brive.
Oui.
C'est pas M. Imbert ?
Si, Monsieur Imbert, voilà. Par là, oui.
C'est la maison Jobertot.
C'est l'ancienne poste.
Son cousin était directeur de la poste aux lettres pendant la Révolution. Et c'est pour ça qu'il y a écrit poste aux lettres sur la maison, cette maison de la porte. Parce que c'était la maison des Jobertot.
D'accord. Et le fameux hospice de Martel existe toujours sous la forme de la maison de retraite actuelle. Maison de retraite est attenante à l'hospice. Quelqu'un me demandait les pots à pharmacie. Oui, ils sont au musée. Et ils sont les témoins de cette époque.
Et on va essayer de les mettre en valeur.
Oui, dans la troisième salle. Alors, quelles sont les questions? Est-ce qu'il y en a? Bon, simplement pour vous dire que la troisième salle, vous m'entendez au fond, va pas être occupée tout de suite par Martel, puisque là, on accueille le 18 juin, on accueille une exposition qui vient du musée d'Arles, l'exposition sur l'armée romaine, la puissance et la loi. Elle reste tout le mois de juillet, peut-être un peu plus, mais dès le mois de septembre, on va s'atteler au travail de meubler cette salle. On a déjà les points de pharmacie, il y a des vieilles mesures, il y a
des choses.
Et tous les documents que vous pouvez nous faire passer, on pourra peut-être les intégrer, documents ou photocopies, hein, bien sûr. On pourra les intégrer dans cette troisième salle. Voilà. Des questions par là
J'en ai une qui n'a pas de rapport direct avec... vous entendez
non.
Ah oui, alors j'en ai une qui n'a pas de... le rapport direct avec la santé. En fait, il s'agit de la population de la ville de Martel, parce que j'avais entendu dire que la ville de Martel était beaucoup plus peuplée au Moyen-Âge que maintenant.
C'était peuplé très différemment. Il y avait beaucoup plus de gens dans les villages autour de Martel, mais la population agglomérée dans Martel était stable, vous voyez, ne changeait pas. Ça tournait autour de 1500-2000 habitants dans la ville. Et autour, c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas de statistiques sur les villages. On sait seulement les villes, on connaît seulement les villes. Mais on sait aussi qu'il y avait évidemment beaucoup de paysans. Hein. Même dans Martel, il y avait beaucoup de paysans qui habitaient la ville même. Vous savez, jusqu'à la Révolution, et ben, on peut dire jusqu'au XXe siècle, ben, il y avait plus de, je sais pas, 70% de paysans dans les camps, enfin en France. C'était un pays très différent de maintenant, quoi. Rien à voir. C'était pas du tout le même type de population.
Aujourd'hui, il y a 1600 habitants, c'est ça ?
Voilà, maintenant ça a descendu, voilà, ça a descendu au XIXe siècle. Le pic, le plus haut, ça a été vers 1841. Et ensuite, il y a eu une émigration considérable. À partir de 1841, les gens s'en vont à Paris, quoi. Les gens s'en vont. On voit bien dans les statistiques qu'il y a beaucoup de grands-parents qui habitent Martel avec les petits-enfants. Mais mes enfants sont partis à Paris, à Limoges, à Brive, etc. Ils sont partis, quoi. Et ça, c'est normal. Il n'y avait plus tellement de travail. Après la Révolution, il n'y avait plus de sénéchaussée, il n'y avait plus rien, quoi. Puis c'était pas une ville industrielle. Il n'y a pas d'eau. C'est ça le grand problème de Martel, c'est le manque d'eau. Donc à partir de là, pas de possibilité d'industrie, quoi. Mais du coup, vous avez gardé une très belle ville. Parce qu'elle pourrait être très déformée, très abîmée par les choses modernes. Je sais que M. Roquier, autant il était maire de Martel, n'aimait pas que je dise ça. Mais je lui disais, ça vous fait venir des touristes d'avoir une belle ville. Avoir une ville qui a gardé ses vieilles maisons, ses maisons du XVIIe, XVIIIe siècle. Les maisons de ses officiers de justice. Ça se voit que c'est une ville qui a été très riche. Très riche. Voilà, merci bien. Merci.